Bonsoir encore à chacun, chacune. C'est vrai que moi, j'ai plus l'habitude de dire bonsoir. Donc si jamais je fais des erreurs au niveau de l'horloge, ne m'en voulez pas. Mais c'est un plaisir pour moi d'être là parmi vous ce soir. C'est toujours un privilège de pouvoir partager la parole de Dieu. C'est, je veux dire, un exercice que je prends toujours au sérieux, n'est-ce pas ? Et donc merci beaucoup Stéphane, merci au leadership de la paroisse de Versoix de me permettre de vivre cela avec vous. Donc comme il a été dit, je m'appelle Sidi Mbaki, j'ai 33 ans, l'âge de la résurrection. Exactement, je suis pasteur à la paroisse de Carouge avec Thierry Bourgeois. C'est une paroisse que je connais depuis que j'ai donné ma vie au Seigneur. J'ai grandi à l'Armée du Salut à Genève, je suis née, j'ai grandi à Genève. J'étais d'abord à l'Armée du Salut pendant jusqu'à mon adolescence. Puis après, j'ai quitté, j'ai voulu faire ma vie. Et puis au travers d'une amie qui m'a amenée jusqu'à cette paroisse, j'ai pu me réconcilier pour de vrai avec le Seigneur et puis cheminer jusqu'à l'appel au ministère auquel je ne m'attendais pas. Et donc j'ai pu être formée. J'ai fait des études de théologie avec Christine, n'est-ce pas ? Contente de te voir. On a pu partager les bancs de la théologie à la faculté protestante de Genève à l'université. Et puis que j'ai fini il y a quelques années maintenant. Et donc là, depuis un an, je suis officiellement pasteur à la paroisse de Carouge. Donc voilà un peu pour qui je suis. Mais il ne s'agira pas de moi ce soir, n'est-ce pas ? Nous allons nous plonger dans la parole de Dieu. Et puis, en ce moment à Carouge, on est sur une thématique sur les fondamentaux de la foi. On fait une lecture de l'Épître aux Romains. Et puis, comme ma venue ici tombait dans cette thématique, dont j'étais plongée dans les fondamentaux, et puis j'avais... Voilà, cette intime conviction qu'il fallait qu'on parle de la foi ensemble ce soir. Donc pas des fondamentaux de la foi, mais du fondement qui est justement la foi. Donc ça peut paraître être un thème redondant, n'est-ce pas ? Je pense que beaucoup d'entre vous ont entendu parler de ce thème en long et en large depuis peut-être des années. Mais ce serait comme dire qu'on lit la Bible qu'une seule fois, ce qui est faux et pas forcément très sain. Mais donc ce soir, on va se replonger dans certains aspects de la foi. On ne pourra pas l'aborder de manière exhaustive, vous imaginez bien. Mais voilà, je prie que dans ce qui sera apporté, que ça nous fasse du bien. Et j'ai bien dit « nous » parce que je m'inclus aussi dedans. Amen. Très bien. Et donc la foi, c'est une puissance, n'est-ce pas ? Elle est le fondement de notre relation avec Dieu. Et pour commencer, on a ce verset de Paul dans 2 Timothée 4, verset 7, qui va... Je crois, s'afficher, ça marche super. Où il dit à Timothée, son disciple, donc, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est pas mal, hein ? On se dit qu'arrivé à la fin de sa vie, Paul fait ce constat qu'il désire transmettre à son disciple Timothée que l'essentiel qui doit nous rester à la fin de notre vie, c'est le fait de garder la foi. Et il associe la foi à un combat, ce qui n'est pas rien. Donc on va y revenir, mais peut-être pour commencer, partons d'un postulat de base, parce qu'il faut qu'on pose les fondements de qu'est-ce qu'on entend quand on parle de foi. Et donc il y a d'autres passages bibliques, il va y en avoir plusieurs ce soir, mais le suivant est de Romains 10-17, où il est dit « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ». Alors, il y a des personnes dans le monde qui ont foi en eux-mêmes, n'est-ce pas ? Qui disent, voilà, moi, je crois en moi, en mes capacités, on peut avoir foi en différentes choses. Mais là, dans cette lettre aux Romains, il est question de dire que la foi vient de ce qu'on entend, donc ça passe par l'ouïe, en tout cas par l'entendement personnel, et elle ne vient pas de nulle part de la parole de Christ. Donc, cette foi basée sur l'Évangile. L'Évangile qui nous présente un tableau de l'humanité qui a péché, n'est-ce pas ? Et pour lequel Dieu, dans son amour inconditionnel, a envoyé son Fils, qui est venu crucifier le péché avec lui, qui a fait mourir cette condamnation qui pesait sur nous. Il a été crucifié, il est mort, ressuscité le troisième jour, il a passé encore 40 jours avec ses disciples pour les enseigner, les envoyer par-delà le monde, n'est-ce pas ? Et ensuite, il est remonté au ciel, on dit qu'il intercède jour et nuit pour nous, et surtout, il revient. Certains diront, il vient bientôt. Et donc, en tant qu'enfant de Dieu, tous ceux qui reçoivent ce message, qui l'ont accepté, n'est-ce pas, qui le confessent de leur bouche, sont considérés comme étant enfants de Dieu. des chrétiens qui ont reçu cette foi. Et donc Jésus, qui est le seul, la vérité, le chemin, la vie, comme vous le savez, il n'y a aucun autre moyen d'être sauvé. Il n'y a aucune autre foi qui nous donne justement accès à cette promesse de la vie éternelle. Et donc c'est par Jésus qu'on a accès à ce bonheur, cette vie éternelle. Et donc voilà en résumé ce que nous dit la parole de Dieu, n'est-ce pas, ce que nous avons entendu et ce en quoi nous croyons, je crois, tous ici ce soir. Et donc maintenant qu'on a établi d'où vient notre foi, cette parole de Christ qui nous a été donnée, on peut essayer d'en donner une définition. J'ai failli prendre le Larousse, le Robert, j'ai dit bon, on va éviter quand même. Et donc, dans la Bible, il y a ce fameux verset qui nous donne une définition. En tout cas, il y en a plusieurs, mais en tout cas, celui-ci est assez connu, de Hébreux 11.1, où c'est une définition que j'appellerais pratique, où il est dit « Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Et moi, je suis d'une génération, je suis la génération YouTube, je peux dire quand même, n'est-ce pas ? Génération qui a connu le changement de la technologie. J'ai connu autant les VHS que tout ce qui est numérique maintenant. On a connu les disquettes, enfin, voilà, il y a toute une évolution, les DVD. Donc j'ai vu une grande évolution technologique et à cause de ça, pendant des années, j'ai consommé du contenu YouTube. Et puis, il y a une jeune femme avec sa famille qui créé du contenu où elle montrait un peu sa vie. Et puis c'était une des premières créatrices de contenu chrétienne aux États-Unis. Et donc, cette femme a une sœur jumelle, et puis elle partageait un peu ses défis, et un de ses défis, c'est qu'avec son mari, il n'arrivait pas à concevoir d'enfant, n'est-ce pas ? Et pourtant, elle décrivait que, dans ses jeunes années chrétiennes, Dieu leur avait parlé qu'ils auraient un enfant, n'est-ce pas ? Et ce qui est plus particulier dans son cas, c'est que sa sœur jumelle, après qu'elle ait passé des années dans son mariage, sa sœur jumelle a eu, je crois, 5 ou 6 enfants. Donc elle a vu littéralement son clone mener la vie qu'elle rêve d'avoir. Et donc ce qu'elle a fait, donc avec son mari, ils ont prié pendant des années. Et puis, avec la prière, elle a fait un pas supplémentaire. C'est que malgré qu'il n'y avait rien encore dans ses entrailles qui prenait vie, elle a acheté tout le matériel nécessaire pour accueillir un enfant. Elle a acheté des habits, elle a acheté un berceau, elle a acheté même des couches. Et pendant des années, ils ont attendu un enfant. Et passé la quarantaine, ils ont eu un joli petit garçon. Et cette histoire m'a beaucoup touchée parce que je l'ai commencé à la suivre, elle avait à peine 30 ans, donc ils ont attendu très longtemps, n'est-ce pas ? Ça dépend pour qui, mais en tout cas, on peut dire qu'une dizaine d'années, ça reste quand même longtemps quand on s'attend à un enfant et qu'on a cette foi en Dieu. Et donc pour moi, elle est vraiment l'exemple même de cette ferme assurance, n'est-ce pas ? Des choses qu'on espère parce que c'est une ferme assurance qu'elle a mis en mouvement. Des fois, on parle d'une foi agissante. Donc, c'est le fait de poser des actes ou même de prononcer des paroles qu'on appelle prophétiques parce qu'elle s'est basée sur ce que Dieu lui avait dit. C'est pas pareil que de faire preuve de contrôle. On peut faire des fois mettre des balises, essayer plein de solutions et si ça marche pas, je demanderai à Dieu. Là, c'est différent. C'était selon la parole de Dieu. Cette femme s'est mise en mouvement. Donc Dieu fait partir, littéralement, Dieu est la partie intégrante du processus de la foi. On ne peut pas considérer Dieu comme un plan B. J'essaie d'abord toutes les solutions de A jusqu'à Y, et puis le plan Z, c'est Dieu. Et dans ce processus, Dieu, justement, contribue à faire grandir notre foi. Donc tout ce que je peux entreprendre ne peut se substituer à la puissance de Dieu, mais ce que j'entreprends contribue à faire augmenter ma foi sans avoir la crainte d'être déçu. Parce que ça, c'est ça aussi. L'issue, on ne la connaît pas forcément. Il y a des personnes qui peut-être pendant des années croient en certaines choses, mais tant qu'ils ne l'ont pas réellement vécu, ils n'ont pas, disons, autre assurance que leur foi que les choses arriveront vraiment, n'est-ce pas ? Donc c'est pour ça que la foi, c'est que c'est puissant la foi, n'est-ce pas ? C'est quand on ne voit pas, mais que justement, comme Paul dit aussi, de marcher par la foi et non par la vue. Alors ma question pour vous ce soir, quelles sont les choses pour lesquelles vous avez peut-être perdu votre ferme assurance ? Ou quelles sont les choses peut-être que le Seigneur vous appelle, peut-être à partir d'aujourd'hui, que ce soit en communauté ou de manière personnelle, de poser des actes ? Peut-être pendant des années, tu as prié pour quelque chose et c'est bien. Il faut persévérer là-dedans. Je crois qu'on est tous concernés par des désirs. Mais quels sont peut-être les pas supplémentaires, selon la parole de Dieu, qui sont peut-être nécessaires de faire pour voir justement comme un peu mettre à l'épreuve le Seigneur et de s'attendre plus concrètement à lui. Ensuite, il est dit que, donc, or la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et donc une ferme assurance qui amène à démonstration. Et j'aime beaucoup parce que le terme grec de démonstration veut dire aussi la preuve. Donc la foi doit se prouver par quelque chose. Ce n'est pas quelque chose qui reste latent, qui reste dans les airs et puis qui nous fait juste nous sentir bien, comme une sorte d'autoconviction qui nous caresse dans le sens du poil. Mais c'est quelque chose parce que c'est une puissance qui est censée porter un certain fruit, n'est-ce pas? Et ce que j'aime penser et dire souvent, et ce que je crois qui est vrai, c'est que Dieu ne nous demande jamais quelque chose qu'il n'a pas fait lui-même, n'est-ce pas? Quand on est encouragé à avoir la foi, c'est que lui-même, Dieu, a la foi. Dieu a tellement eu la foi, en plus en nous, de pouvoir vivre une vie à ses côtés, qu'il a envoyé son Fils. C'est une preuve de foi immense de dire qu'un monde déchu, parce que Dieu avait foi que ça pouvait être résolu, il a décidé de sacrifier son propre Fils. Donc, à l'image du Maître, n'est-ce pas, en tant que disciple, comme en tant que disciple, le principe d'un disciple, c'est de marcher dans les voies de son Maître, de lui ressembler, Dieu nous appelle aussi à avoir la foi parce que lui-même est ce pourvoyeur aussi de la foi. Donc non seulement il nous demande de faire des choses que lui-même fait, mais aussi il pourvoit à ces choses. Donc ce n'est pas une foi qui doit émaner de nous-mêmes, qu'on est censé produire par je ne sais quelle magie, n'est-ce pas? Mais Dieu déverse en nous cette foi. Si on va un peu plus loin avec un autre passage, j'espère que je vais arriver. Voilà. Dans Marc 11, les versets 22 à 23, c'est le passage où Jésus a maudit le figuier. Et puis avec ses disciples, il repasse devant. Et puis Jésus finit par répondre à ses disciples. Donc il est dit, Jésus dit à ses disciples, « Ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » C'est pas mal, hein? Donc, ça, c'est la version qu'on trouve habituellement dans les Bibles. Mais comme, voilà, j'aime bien aussi regarder un peu dans le grec, hein, ne me jugez pas, s'il vous plaît. De manière plus exacte, Jésus dit à ses disciples, « Ayez la foi de Dieu. » C'est ça qu'il leur dit. « Ayez la foi de Dieu. » Donc, il leur précise que la foi que vous êtes censé manifester ne vous vient pas de vous-même, mais elle vient de Dieu. Et cette même foi qui vient de Dieu est capable de déplacer des montagnes. Que si nous parlons du point de vue de la foi de Dieu et qu'on dit à une montagne, retire-toi et jette-toi dans la mer, et si on ne doute pas dans son cœur, qui est aussi un critère supplémentaire, eh ben, ce que nous disons arrive et s'accomplit. C'est une belle espérance, n'est-ce pas? Amen. Donc je prie aussi que Dieu renouvelle notre foi. Quelle que soit la situation, quelles que soient les années d'attente, en ayant cette perspective que ce n'est pas la foi que moi je dois créer dans mon cœur, une autoconviction comme j'ai dit, mais que c'est réellement une foi qui me vient de mon Dieu qui est tout-puissant, les choses peuvent réellement se passer. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont des enfants ici, oui, ou même des petits-enfants. Moi, j'en ai pas encore, mais j'ai été enfant et... Une des histoires que ma mère m'a racontée, qui m'est souvent restée en tête, parce que je n'en avais aucun souvenir, c'est que plus petite, elle m'amenait régulièrement à Manor, n'est-ce pas, pour faire des courses. Et comme vous savez, Manor a un grand étage avec que des jouets. Et donc à l'époque, c'était la placette, n'est-ce pas? C'était la placette. Et puis donc cet étage était vraiment beaucoup plus alléchant, en tout cas pour moi, parce que voilà, j'avais l'âge où ça me disait encore de jouer avec tout ça. Et donc moi j'avais comme rêve, je voulais habiter à Manor, je voulais habiter dans cet étage. Et donc à chaque fois qu'on devait passer par l'étage, c'était vraiment compliqué pour ma mère parce que je faisais des crises incroyables, je ne voulais pas partir. Et puis une fois, voilà, elle était fatiguée, il fallait qu'on rentre. Elle m'a dit, bon, tu sais quoi, Sidi, on va rentrer et puis tu pourras faire tes valises, on reviendra pour dormir ici. Donc voilà, on ne va pas la juger, elle a fait comme elle pouvait. C'était nécessaire ce jour-là. Et donc, on a fait les courses. Et puis d'un coup, je me suis calmée. Mais pour elle, c'était juste une manière de me calmer. Mais moi, j'ai retenu. J'ai retenu. On est arrivé à la maison et j'ai fait mes valises. J'ai fait mes valises, j'ai mis ma veste, et je suis allée devant la porte. Puis elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, mais on va à Manor, on va habiter là-bas, on va dormir. Et quand j'ai compris que ce n'était pas vrai, ah là là, ça a été le drame. Elle m'a même dit que j'ai dormi avec ma doudoune, tellement que voilà, j'étais dévastée. Et c'est ça, la foi d'un enfant. Que son parent lui dit quelque chose, et même si ça paraît absurde, parce que c'est maman qui a dit, ça va se passer. N'est-ce pas? Alors, de cette même manière, on peut lire le passage suivant, où on amène des enfants, des petits-enfants à Jésus. Il est dit, alors on lui amena des petits-enfants, afin qu'il leur imposa les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent, et Jésus leur dit, « Laissez les petits-enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Et je pense que là, il est aussi question de la foi. Parce que dans l'Antiquité, le rapport aux enfants était très différent d'aujourd'hui. Hein. Il n'y avait pas une grande estime, disons, pour les enfants. Ce n'est pas pareil. Mais il y a deux principes qui reviennent auxquels on peut encore s'identifier aujourd'hui. Parce qu'il ne dit pas que le royaume des cieux appartient aux enfants. Il dit à ceux qui leur ressemblent. Alors, à quoi doit-on ressembler quand on regarde les enfants qui nous permettent d'être des héritiers du royaume de Dieu? Il y a deux choses. Et déjà, partons du principe que, pour Jésus, quand il dit qu'on ressemble à des enfants, ça n'empêche pas la maturité. N'est-ce pas? Ça veut même dire que le fait de ressembler à des enfants est une forme de maturité spirituelle. Ce qui est un non-sens dans la logique aujourd'hui. Mais là, Jésus admet qu'un adulte mature dans la foi doit ressembler à un enfant qui dépend de lui, dans une dépendance totale à Dieu, quels que soient les moments, les circonstances, de dépendre totalement de Dieu, et qui croit fermement à tout ce qu'il dit. Comme moi, j'ai cru à ce que disait ma mère, même si c'était impossible, c'est parce que c'est ma mère que j'y ai cru. Alors des fois, on reçoit des promesses de Dieu qui sont vraies. Hein. Et même si on n'en reçoit pas dans des temps de ministère, la Bible en est remplie. Alors est-ce qu'on y croit? Est-ce qu'on y croit vraiment de manière aussi aveugle qu'un enfant? Alors ce n'est pas un jugement, mais c'est une question. C'est une question que je me pose aussi, n'est-ce pas? Parce qu'on est tous aussi challengés par les doutes, par les questionnements, par l'attente qui mettent à l'épreuve justement notre capacité à croire aux promesses de Dieu. Donc, avec tout ça, ce qui fait aussi la différence quand on parle de foi, c'est aussi la persévérance. Parce que c'est aussi à l'épreuve du temps que la foi, elle est challengée. Et c'est ce qu'on voit avec Paul. Hein. Paul, il n'a pas eu une vie facile du tout. Même avant de rencontrer Christ, c'était quand même un criminel notoire, même s'il le faisait en pensant bien faire les choses. Et puis après, il a passé sa vie à être persécuté. Il a été lapidé, jeté, méprisé en prison, trahi par ceux même qui l'entouraient. Donc c'est quelqu'un qui aurait eu maintes fois des raisons très légitimes de tout lâcher. Parce que tout ce qu'il faisait, c'était pour l'évangile. Il s'appelait lui-même esclave de Christ. Donc sa vie était en dépendance totale à lui. Alors est-ce qu'il a été infaillible dans la foi? On ne sait pas. Ce n'est pas lui l'exemple, disons, absolu d'une fermeté dans la foi. Mais en tout cas, à la fin de sa vie, comme on l'a lu au début, il dit que l'essentiel, en arrivant jusqu'au bout, ce qui nous permet de finir la course, c'est en tout cas de garder la foi. Alors, qu'est-ce que c'est d'autre, la foi? Quand je reviens toujours sur cette question de Paul, avec ce combat, donc c'est que la foi, c'est une arme. Parce que s'il y a un combat, on va pas à la guerre en slip, n'est-ce pas? On va à la guerre armée pour pouvoir combattre. Et donc Paul écrit ensuite dans la lettre aux Éphésiens, certainement ce passage que vous connaissez très bien, d'Éphésiens 6, les versets 10 à 17, que je vais lire entièrement et on va revenir dessus. Il dit au reste, « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. » Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela, le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Et j'écoutais une fois une prédication d'un pasteur qui parlait justement de cette dimension du bouclier. Et en fait, il disait que le bouclier se met devant parce que Dieu n'a pas prévu qu'on tourne le dos au combat. C'est pas mal, hein? Un combat, on le mène de front. Si on tourne le dos, c'est qu'on a déjà perdu. Et tenir un bouclier de dos, ça fait mal à plein d'endroits dans le corps aussi. Donc ce ne serait pas logique. Mais si on va dans un combat et qu'on le prend de front, en tant que chrétien, ce qui est encore mieux, c'est qu'on sait qu'on le mène dans une perspective de victoire déjà. Donc ça peut paraître paradoxal de se dire, mais pourquoi combattre, n'est-ce pas, si on a déjà la victoire? Mais le combat, c'est un enseignement. Et Dieu nous fait passer par différentes... En fait, il permet différentes épreuves qui viennent éprouver, mais qui viennent surtout aiguiser notre foi. Et chaque combat nous rend plus forts. Chaque combat nous rend réellement plus forts. Est-ce qu'on peut mettre... Je profite, hein, juste l'image. Merci beaucoup. C'est juste le slide suivant. Quand j'ai commencé à méditer sur cette question de la foi comme arme, je suis tombée sur cette image d'Internet que j'aime bien utiliser quand je prêche sur ce thème, qui a été dessinée sur la base de ce verset. Et je me suis dit, waouh, ça veut dire que quand Paul prend l'image d'un combat et de toutes les armes, en fait, on ressemble à ça. C'est pas mal. Est-ce que vous imaginez dans cette armure, revêtue de tout ça, et voyez l'utilité du bouclier? Et puis, en voyant cette image, je me suis dit, mais... quelque chose fait davantage sens quand on parle de l'importance de la foi. Parce qu'il y a le casque, il y a les chaussures, etc. Mais on se rend compte que le bouclier, il sert à empêcher, à arrêter les traits enflammés, mais en fait, il protège l'ensemble de l'armure. Donc sans la foi, que ce soit le zèle, le salut, tout ça se retrouve grandement endommagé. Parce que justement, c'est un fondement pour nous. On a besoin de l'avoir devant. Et Paul le dit même, par-dessus tout cela, n'est-ce pas? Donc c'est un ordre particulier. Alors oui, il y a l'épée, tout ça, mais le bouclier permet aussi de garder notre armure intacte. Ça dépend des combats, mais en tout cas, ça aide beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez Chantal Régnier, qui a été professeure d'exégèse biblique. Dans son commentaire sur Éphésiens, qu'elle a écrit en 2004, elle écrit « Arme emblématique des légions romaines, le bouclier devient emblématique du chrétien. Il est garant d'une protection toute particulière puisque l'étymologie du verbe hébreu « croire » suggère que la foi est ce qui rend solide. Il est à saisir, à tenir au point en toutes circonstances. » Donc c'est essentiel. Sans la foi, si on n'a pas cette ferme assurance, il ne peut pas se passer grand-chose. Et la Bible dit même, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Je ne sais pas si vous faites une promesse à quelqu'un et qu'elle vous regarde en disant « Ouais, on verra. » Mais comment vous voulez réagir bien? Ce n'est pas possible. Donc si forcément Dieu, sa réponse, elle dépend aussi de notre foi, n'est-ce pas? Si on a cette ferme assurance qu'on la tient aussi dans les combats contre vents et marées, Dieu y répondra aussi. Et en plus, comme on l'a dit, déjà dans une perspective de victoire à cause de Jésus-Christ. Grâce à Jésus-Christ. Mais bon, un combat, c'est rude quand même, n'est-ce pas? Et même si on le mène dans une victoire à la fin d'une bataille, Bon, on a quand même bien des cabosses hein, sur l'armure. Et donc la foi comme bouclier, c'est aussi quelque chose qui doit s'entretenir. Et on le sait tous ici, les épreuves, la vie, différentes phases, fait que la foi peut être un peu endommagée. Et donc on a besoin d'un entretien de cette foi. Et un des exemples bibliques qui m'est venu à l'esprit, c'est de parler de Marie. En plus, on arrive bientôt à Noël, donc voilà, c'est un peu dans le thème. Mais j'aime beaucoup l'histoire de Marie parce qu'en termes de foi, je trouve très fort ce qu'elle a vécu. Et on se rend compte aussi pourquoi Dieu l'a choisi pour porter Jésus. Marie habite à Nazareth. Et puis Nazareth, ce n'était pas une ville très appréciée, n'est-ce pas ? C'était, je ne sais pas, l'équivalent des paquis aujourd'hui, même si j'aime bien les paquis de réputation, les gens, voilà. On sait de quoi on parle, n'est-ce pas ? Mais en tout cas, à cette époque-là, Nazareth n'avait pas une bonne réputation. Même on disait, mais est-ce que quelque chose de bon peut sortir de Nazareth ? Et pourtant, comme on l'a aussi entendu, Dieu regarde au cœur. Il a vu le cœur de Marie et il l'a choisi pour porter le Messie. Marie s'est fiancée à Joseph. S'est fiancée à Joseph, et dans la loi juive, les fiançailles, ça a une valeur légale. Donc c'est un engagement solide, donc qui n'est pas facilement à rompre. C'est pas comme aujourd'hui, je te quitte par SMS et on passe à autre chose. Non. Là, les gens sont déjà impliqués, la famille est impliquée, la réputation est impliquée. Et donc quand l'ange Gabriel vient annoncer que Marie va tomber enceinte, elle connaît aussi sa tradition en tant que femme à cette époque. Elle sait ce que ça peut impliquer. Dans Deutéronome 22, il est dit que si une femme a été trouvée non vierge avant son mariage, la punition, c'est la lapidation. Donc quand l'ange vient lui dire qu'elle va tomber enceinte, elle se dit, mais comment ça va se passer en fait ? Parce que c'est pas joli si ça se passe comme ça. Je suis fiancée, mais il faut attendre le mariage normalement. Et donc, il lui explique... Il lui dit, juste après, donc c'est dans Luc 1, des versets 35 à 37, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, est elle aussi devenue enceinte d'un fils dans sa vieillesse. Celle que l'on appelait la stérile est dans son sixième mois. En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Et ensuite, Marie va répondre, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et l'ange la quitta. Donc Marie, elle n'était pas là pour remettre en doute la parole de Dieu. C'est qu'elle avait justement à cœur de plaire à Dieu et de marcher selon ses principes. Mais sur la parole de Dieu, elle a répondu, « Je suis la servante du Seigneur, que ta parole s'accomplisse pour moi. » Et donc, quelques temps après, le Messie naît, il y a même des bergers qui viennent visiter, expliquer comment eux-mêmes ont été visités pour trouver où se trouvait le Messie. Et puis, juste après, dans Luc 2, au verset 19, une fois que Marie a vécu ces temps incroyables, il est dit, Marie gardait le souvenir de tout cela et le méditait dans son cœur. Et je crois que peut-être une des clés pour entretenir vraiment la foi. Et je crois que ça a été dit durant la louange. C'est vraiment le souvenir. De se souvenir de ce que Dieu a dit, de se souvenir de ce que Dieu a fait. Humainement parlant, on est tellement enclin à se souvenir des choses négatives, n'est-ce pas ? Parce qu'aussi l'âme humaine fonctionne malheureusement aussi avec des traumas. Donc quand on vit des choses négatives, ça nous marque. Et donc on a tendance à plus s'en souvenir que les choses aussi positives, qu'on prend juste comme une norme, et puis on avance avec, et puis les choses négatives font surface, et puis on a tendance à les ressasser. Mais le souvenir est quelque chose d'important. Et avec le souvenir, il y a deux choses qui peuvent nous faire justement tomber dans l'incrédulité. C'est déjà la chair, n'est-ce pas ? Pas la chair au sens de la chair, le corps, mais la chair, justement, cette partie de notre être qui tend à vouloir pécher, qui a des désirs contraires à ceux de l'esprit, parce que forcément, des fois, on ne veut pas des choses qui sont conformes à la volonté de Dieu. Et même au niveau de la foi, des fois, on peut agir de manière contraire à notre foi. Et puis, il y a l'épreuve aussi. L'épreuve, les difficultés, les promesses qui traînent, les choses qui semblent aller au contraire de ce à quoi on s'attend. Et puis justement, dans l'Ancien Testament, on voit à quel point le Seigneur rappelle à son peuple régulièrement « Souviens-toi d'où je t'ai tiré, de la maison de la servitude. Souviens-toi que je t'ai libéré. » Vous vous rendez compte que tout un peuple a vu la mer s'ouvrir en deux. Moi, je n'ai jamais encore vécu de miracle de cette taille. Et malgré ça, on voit après que dans le désert, en terre promise, malgré les générations qui se sont succédées, il y a toujours un peu des chutes. Même dans le désert, on veut retourner carrément en Égypte. On aimait bien les concombres, la viande qu'il y avait là-bas. Donc même l'état d'esclave, ils ont le souvenir de ça, comme un bon souvenir. Alors qu'être esclave, c'est quand même un trauma en soi, n'est-ce pas? Donc la foi a été branlée. Malgré tout ce que Dieu a fait, la foi a été branlée. Mais avoir ce souvenir de qui Dieu est et de ce qu'il a fait dans nos vies, dans la vie de ceux qui sont autour de nous, est une clé aussi importante, en tout cas précieuse, pour entretenir la foi. Et donc, comme Dieu a promis une terre promise à son peuple, nous aussi, on a une terre promise, n'est-ce pas? On n'a pas Canaan en tant que tel, mais c'est bien sûr la vie éternelle. Alors oui, peut-être que sur cette terre, pas toutes les choses qu'on désire vont s'accomplir. Est-ce qu'elles sont selon la volonté de Dieu, selon sa parole? Je ne sais pas. Que chacun examine sa propre vie. Mais ce qui est certain, c'est que la promesse pour tous, en tant que chrétiens, elle est la même, de la vie éternelle, d'une éternité en communion parfaite avec Dieu, où il n'y a plus aucune larme, plus aucune tristesse, plus aucune maladie, où tout ça est terminé. Et donc, quand on devient enfant de Dieu, quelque part, j'ai envie de dire, on entre déjà dans l'éternité. N'est-ce pas? Parce qu'on est déjà assis dans les lieux célestes avec Christ. Donc on est des citoyens du ciel qui vivons notre pèlerinage sur terre, mais nous entrons déjà dans l'éternité. Et donc cette promesse, elle a, en Christ, comme on l'a dit, déjà été pleinement accomplie. Donc il y a un peu trois choses dans lesquelles j'aimerais nous amener dans la prière ensemble pour ce soir, pour être aussi, continuer d'être encouragés dans la foi. C'est de d'abord prier pour que Dieu nous ravive en nous le souvenir de qui il est réellement et de ce qu'il a fait dans nos vies. Ça a été dit aussi avec la louange, je crois, de remercier le Seigneur, de se souvenir de quelque chose qu'il a fait, mais vraiment d'avoir comme une culture aussi de la reconnaissance. Vous voyez? Parce qu'on vit des belles choses. Hein, il y a des gens qui ont vécu des atrocités dans leur vie et qui arrivent aussi à s'en remettre, à être restaurés. Donc ce n'est pas impossible. Donc oui, de se rappeler peut-être de sa propre conversion, où on était avant, comment Dieu est venu te chercher, et les promesses encore qu'il a pour toi, de se souvenir de cela. Ensuite, ou enfin, en même temps, donc, qui est Dieu, le souvenir, mais aussi de demander au Saint-Esprit de raviver peut-être la foi. Vu que la foi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut créer nous-mêmes, de demander au Seigneur de venir au secours de notre foi. Je ne sais pas, peut-être en tant que communauté, vous avez des rêves, n'est-ce pas? Peut-être les années se font longues ou les choses ne semblent pas décoller. Mais je crois qu'on peut prier aussi ensemble que Dieu agisse puissamment en nous d'abord pour que ces choses puissent être menées à leur preuve, à leur manifestation. Ça va pour vous? Ok. Je vous invite à vous lever. Je vais simplement prier, et puis s'il y a plusieurs personnes qui veulent aussi élever la voix, sentez-vous libre de le faire. Ce temps, il est pour nous tous. Je rappelle simplement ce verset dans Hébreux 11 au verset 6 où il est dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. » Et oui, Seigneur, nous te cherchons ce soir. Seigneur, nous avons besoin de toi. Il est dit que sans toi, nous ne pouvons rien faire, Seigneur. C'est par toi que nous pouvons tout. Comme l'ange Gabriel l'a dit, oui, rien n'est impossible à Dieu. Et Seigneur, alors que nous prions vraiment, je te demande de venir par ton esprit, nous ramener à notre esprit le souvenir de qui tu es, Seigneur. là où on a oublié certains aspects de tes multiples facettes. Seigneur, nous prions qu'on peut réaliser d'une manière renouvelée que tu es grand, que tu es le Tout-Puissant, que tu es le Maître de l'univers, Seigneur, que tu es le Créateur du ciel et de la terre, que tu n'es ébranlé par rien, Seigneur, que sous le soleil, il n'y a rien de nouveau pour toi. Seigneur, que tu te soucies de nous. Et tout en te souciant, Seigneur, tu n'es pas affaibli, Seigneur, au contraire. Tu veux prendre soin de nous et nous relever, Seigneur, des endroits dans lesquels nous nous trouvons, que ce soit le désert, la souffrance, la solitude. Seigneur, je te prie vraiment que nous nous rappelions de qui tu es, que nos regards changent et s'élèvent vers toi, Seigneur, afin que notre foi vraiment soit ravivée. Alléluia.